Gloire à Dieu, nous continuons notre étude sur le livre de Josué. Nous sommes arrivés au chapitre 12. Le résumé, c'est que Josué, après la victoire à Jéricho, ben maintenant, la conquête du territoire de Canaan s'accélère de tous côtés. Ils ont réglé le problème du sud, ils ont réglé au chapitre 11 le problème du nord. Voilà, maintenant au chapitre 12, on nous fait un résumé de victoire que Josué a obtenue. Donc c'est Josué qui fait entrer les enfants d'Israël dans leur promesse, dans l'appel de Dieu à prendre le territoire. Et une des grandes leçons que nous avons retenues, c'est que c'est Dieu qui doit diriger les choses et que nous, on doit obéir. Si on est dans cette disposition-là, même si nos ennemis sont hyper nombreux, même si nos ennemis sont hyper armés, notre Dieu sera vainqueur à travers nous de ses ennemis. Notre part à nous, c'est d'obéir aux instructions de Dieu. Même si en apparence, ça n'a pas de puissance visible, mais dans le spirituel, ça a des puissances terribles. D'ailleurs, c'est ce que notre frère Paul dit dans 2 Corinthiens 10 à 3 à 6. Il dit que les armes que nous avons sont des armes puissantes. Même si en apparence, elles ne paraissent pas puissantes. On n'a pas de char de combat, on n'a pas de Kalachnikov, mais la prière, l'obéissance à Dieu, l'adoration, la louange sont des armes très puissantes qui nous donnent de grandes victoires. Et Josué a obéi à Dieu. Il a vécu tout cela. Et nous continuons au chapitre 12, le résumé des victoires.
Josué, chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa domination s'étendait depuis Aroer, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinneret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient vers Beth-Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacathiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi, pays des Éthiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Debir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adoulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapouach, 1. Le roi de Éfer, 1. Le roi d'Afek, 1. Le roi de Lascaron, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akshfat, 1. le roi de Taanak 1, le roi de Megiddo 1, le roi de Kedesh 1, le roi de Jokneam au Carmel 1, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor 1, le roi de Gojim près de Gilgal 1, le roi de Tirtsa 1, total des rois 31.
Voilà, c'est que le nombre de rois que Josué a vaincu. Et je voulais relever quelque chose qu'on a vu au chapitre 11 et 10, c'est qu'il y a eu parfois des coalitions de peuples contre Israël et Dieu a donné la victoire à Josué face à ces coalitions. Il a donné la victoire à Josué face à ces coalitions. Mais la leçon qu'on peut prendre de ça, c'est que le Seigneur a conscience que nous sommes des humains et dans notre vie, le temps a son importance. Les efforts agissent sur notre corps. Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes encore sur terre et notre corps subit des dommages en fonction des efforts qu'il produit. Et certaines coalitions, nous, on pourrait mal les interpréter. Donc, quand les gens se coalisent contre nous comme quelque chose de très négatif, on se dit, mais le nombre augmente, le nombre d'ennemis augmente. Mais dans le sens de Dieu, c'est économique par rapport aux limitations de notre corps, à l'épuisement de notre corps. Il va préférer réunir les gens qui nous combattent d'un coup et on triomphe de plusieurs peuples à la fois, plutôt que se battre avec chaque peuple. Et même si Dieu agit avec nous, c'est quand même notre corps qui travaille aussi. Il travaille dans notre corps et notre corps travaille. Et dans sa miséricorde et dans sa bonté et dans sa stratégie, hein, dans son esprit stratégique, Dieu peut nous éviter trop d'épuisement par trop de batailles et va préférer réunir nos ennemis en un seul afin que nous économisions notre effort physique et que d'un coup, on soit vainqueur de plusieurs ennemis à la fois. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ce qui se passera en Apocalypse à la fin. Quand tous les peuples de la terre seront réunis pour venir combattre les saints et le feu viendra du ciel, les consumera une fois pour toutes. Donc, les coalitions, ne les voyons pas forcément comme quelque chose de négatif. Comprenons que quand beaucoup de gens à la fois nous combattent, peut-être que Dieu veut d'un trait, par une seule prière, en finir avec eux, au lieu qu'on prie à chaque fois pour chaque cas. Donc, il permet qu'il y ait tout en même temps. Comme ça, on prie pour tout en même temps. On est vainqueur. Donc, voilà, c'est un élément que je voulais relever par rapport à ce qu'on a lu précédemment. Et là, on nous montre le nombre de rois que Josué a vaincu. Vous savez, à première vue, on se dit, mais bon, juste nous montrer ça dans quel but. Mais le but, c'est qu'on comprenne que ça a été un travail de dur labeur. 31 rois à vaincre, ça a été un travail sérieux. C'était pas de longue durée aussi. Comme on a lu dans les textes précédents, il y a un autre enseignement, c'est que là, je ne peux pas tout vous décrire. Donc, les gens qui veulent aller plus loin, Josué a travaillé d'une manière stratégique en commençant par Jéricho. Jéricho, c'était la grande ville bien entourée de murailles qui empêchait d'aller toucher les autres. Donc, il a fallu d'abord vaincre Jéricho. À partir du moment qu'il a vaincu Jéricho, il a fait de Jéricho et des alentours sa base. À partir de là, ils pouvaient maintenant aller attaquer ailleurs, en commençant par les hauteurs. Certains détails, certains rois qui sont cités là, quand on les rapporte géographiquement, il y a des détails. Il y en a qui sont en hauteur, il y en a qui sont dans les plaines, mais il y a une stratégie militaire qui a été suivie par Josué à travers tout ceci. Et il a attaqué, par exemple, des rois comme le roi de Hatsor, qui était le grand roi du Nord. Il a attaqué pour en finir avec le Nord une fois pour toutes. C'est comme ça qu'il y a eu une stratégie militaire. Donc, ça montre que Dieu, c'est vrai, il agit à travers nous, mais il ne nous enlève pas l'intelligence. Parfois, il utilise notre intelligence, il utilise les stratégies de la terre, mais toujours avec la logique du Saint-Esprit. Mais l'homme est quand même dedans, dans l'affaire. Voilà, l'homme n'est pas écarté, l'homme est dedans. Nous voyons des gens, par exemple, décider tout bêtement de ne plus étudier parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ou bien de ne pas comment dire, cuisiner. Donc ils sont là à attendre que le corbeau vienne les nourrir. Non, on ne peut pas forcer la spiritualité comme ça. Donc Dieu peut utiliser les éléments humains pour accomplir sa volonté. L'essentiel, c'est que c'est lui qui les utilise. Donc c'est ce qu'on voit à travers l'histoire de la conquête de Canaan. Dieu utilise des éléments humains et des stratégies humaines de guerre aussi pour pouvoir donner la victoire à son peuple. Donc Josué arrive à triompher de 31 rois. Nous continuons, chapitre 13.
Josué, chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tous les territoires des Guéchuriens, depuis le Chishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne, occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara qui est au Sidonien, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne de l'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrephoth Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroer sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Galaad, le territoire des Guéchuriens et des Maacathiens, toute la montagne de l'Hermon, et tout Bazan jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og en Bazan, à Astaroth et à Edrei, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroer sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamot-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahat, Kedemoth, Mephat, Kirjataïm, Sibma, Tseret, Ashachar sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rekem, Tsour, Ur et Reba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, il avait aussi fait périr par l'épée le devant Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leurs familles. Ils eurent pour territoire Jézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Ammon jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabba, depuis Hesbon jusqu'à Ramat Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir et dans la vallée Beth Aram, Beth Nimra, Soukot et Tsaphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinneret, de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Voici l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leurs familles. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jaïr en Bazan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaroth et Édréhi, villes du royaume d'Og en Bazan, et Shur aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit.
Amen. Voilà. Donc là, on nous explique le partage qui se fait du côté. Bon, on n'a pas une carte ici, une grande carte pour montrer, mais il y a le Jourdain qui sépare le territoire en deux. Donc là, nous sommes dans la partie est du Jourdain, donc qui est donc que Moïse a connu, parce que Moïse s'est arrêté, et donc il n'a pas traversé le Jourdain. Donc vous vous souvenez quand est-ce qu'il y a eu passation entre Moïse et Josué? C'était juste avant le Jourdain. Donc Moïse s'arrête, Josué fait le miracle, les eaux du Jourdain se séparent et ils passent et ils font le combat contre Jéricho. Donc c'est comme ça que ça s'est passé les choses. Donc Moïse est resté de l'autre côté du Jourdain, et de l'autre côté du Jourdain, il y avait donc les Rubénites, la demi-tribu d'Éphraïm et de, comment dire, les gens de Gad qui avaient dit, mais nous on reste de ce côté si on ne cherche pas à aller de l'autre côté. Donc on leur avait déjà donné, des territoires, et c'est ce qu'on est en train de lire. Mais en même temps, le Seigneur dit à Josué que tu es déjà vieux, tu ne peux pas continuer à te battre indéfiniment. Divise les territoires. Et chacun, donc on a divisé les territoires même quand on savait qu'il y avait des gens. C'est ça la puissance de l'obéissance à Dieu, la puissance de la prophétie, c'est que Dieu a vu la victoire, mais il te dit d'aller au moment où il n'y a pas la victoire. Donc on te divise le territoire, on te donne un territoire où il y a encore des gens. Donc à chacun qui recevait le territoire de dire, mais je vais aller récupérer, malgré le fait qu'il y a l'opposition. Donc Dieu peut nous donner quelque chose alors que ça semble bien appartenir à quelqu'un d'autre. Un territoire, des cœurs d'humains. Dieu peut nous montrer à l'avance que tel va se convertir. Et on le sait, et on vit avec cette idée-là, et on vit différemment avec la personne, parce que Dieu nous a montré à l'avance. Donc à nous de prendre Dieu au sérieux et de conquérir la chose. Et c'est la même chose avec toutes les promesses qu'on voit dans la Bible. On a le choix, soit de prendre que les prophéties négatives qui nous montrent l'apostasie à venir, qui nous montrent la rébellion des gens à venir, ou prendre ça et avec les prophéties aussi qui nous montrent comment Dieu va toucher toute l'humanité, comment Dieu va agir dans toute l'humanité. Donc on doit prendre les deux. Donc on ne va pas prendre qu'un camp. Donc souvent les chrétiens choisissent un camp. Non, on doit tout prendre. L'homme vivra de toute la parole qui vient de Dieu. Donc, Josué a fait des répartitions puisqu'il était devenu vieux. Il n'allait pas les entraîner à conquérir tout. Donc il a fait quand même, même s'il n'a pas achevé, il a fait quand même des répartitions de sorte que chacun puisse conquérir. On va le voir d'ailleurs, Caleb va conquérir ce qu'on lui donnera. Donc on lui donne quelque chose à conquérir, mais on ne lui donne pas quelque chose de tout fait. Donc souvent, c'est ça qui va se passer avec nous aussi. Dieu ne nous donnera pas toujours quelque chose de tout fait. Il y a des moments où il nous donnera quelque chose de tout fait. Il y a des moments où il nous demandera de conquérir. Et donc, mais même quand il nous demande de conquérir, il est avec nous. Hein, on se souvient de l'épisode quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il dit aux apôtres « Mais vous-même, donnez-leur à manger. » Il y avait des milliers de personnes qui n'avaient rien à manger. Quand ils ont pris cette charge-là, ils ont accepté la charge, ils ont commencé à réfléchir que faire. C'est là que Jésus intervient. Parce qu'on lui dit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus fait le miracle. C'est Dieu finalement qui intervient, mais au moment où les humains prennent leur responsabilité. Donc nous devons prendre notre responsabilité dans la conquête. Dieu nous associe à la conquête. Tout est grâce, mais la responsabilité, nous devons la partager avec le Seigneur. C'est tout en ayant bien sûr notre part et lui, il a sa part. Donc c'est ce que nous pouvons prendre comme leçon, retirer comme leçon de ceci, c'est que ce n'est pas fini totalement, mais Dieu dit quand même à Josué d'arrêter, chacun, les autres continueront la suite. Et Dieu peut nous donner une vision pour un pays, et au moment où tout n'est pas fini, nous arrêter quand même, parce que notre corps ne suit pas, et continuer avec d'autres personnes, libre à ces gens-là de saisir la vision divine et de gagner ce que Dieu a prédit par son serviteur. On a l'habitude de dire que dans la Bible, on ne voit pas les fils des apôtres, ni leurs filles, on n'en voit pas. Sauf on parle de filles de Philippe, mais à part les filles de Philippe, on ne parle pas d'enfants d'apôtres. Donc cela suppose que chacun doit saisir Dieu. Donc on ne peut pas dire « je suis fils de, j'hérite d'un tel ». Non, chacun doit saisir Dieu et faire sa marche avec Dieu. Tu ne vas pas profiter de la marche de quelqu'un d'autre. Chacun doit faire son contrat avec le Seigneur. Josué a fait sa partie, le reste, les autres devaient prendre leurs responsabilités aussi et faire leur part. Voilà, nous continuons. Bon, il y a quand même une précision qui est citée à deux reprises au verset 33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Mais la tribu de Lévi, c'était la tribu de serviteurs de Dieu, de gens qui devaient servir Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans la sacrificature, dans le sacerdoce de prêtre. Voilà, c'est cette tribu-là. Ben, cette tribu-là n'avait pas de terrain à elle. Voilà, elle habitait quelque part, mais c'était des terrains à d'autres tribus qu'on leur donnait, qu'on leur prêtait en quelque sorte. Et j'aime ce qu'on dit, c'est Dieu qui était l'héritage de cette tribu-là. Mais bien-aimé, si tu manques tout, sache quand même que Dieu est ton héritage. C'est très important. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est pas seulement, il n'y a pas une tribu parmi les chrétiens qui est comme ça. Tous les chrétiens sont comme ça. Sont des sacrificateurs devant Dieu. Comprenons que c'est Dieu qui est notre véritable héritage. Ce qu'il nous donne à côté, c'est juste pour le servir, quoi. Notre héritage, vraiment, c'est le Seigneur lui-même. Ça doit être ce qu'on cherche en profondeur. Je vois des gens qui nous ont appelés avec tristesse pour nous dire « on a appris que vous n'avez plus la salle, ceci, cela ». C'est maintenant nous qui les consolons pour dire « mais c'est Dieu qui est notre héritage ». À quelqu'un, j'ai répondu « mais Jésus n'avait pas de salle ». Voilà. Donc, si on en a, gloire à Dieu, on n'en a pas, c'est Dieu qui est notre héritage. Dans les deux cas, Dieu reste notre héritage et les autres choses ne sont que des moyens que Dieu qui est notre héritage utilise. Donc, nous n'allons pas pleurer alors que nous avons le plus important. C'est Dieu lui-même notre héritage. Nous sommes les Lévites de maintenant, nous sommes les sacrificateurs de maintenant. C'est Dieu qui est notre héritage. Que l'on soit privé de tout, mais on reste avec le Seigneur et c'est lui qui fera tout le reste. Voilà, nous continuons chapitre 14.
Josué, chapitre 14. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens.
Il y a vraiment une insistance à dire que les Lévites n'ont rien du tout, quoi. Voilà, ça interpelle, hein. Oui, on continue.
Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre.
Voilà. Donc quand on lit les textes du chapitre 13, on voit que cet endroit-là n'était, je crois, pas de l'Hermon plutôt au chapitre 13, mais même Hébron n'était pas encore conquis par les enfants d'Israël. Mais Caleb réclame ça, il dit, mais on m'a promis la montagne par Moïse, donc maintenant, laisse-moi donc aller récupérer ça, et Dieu sera avec moi, même si c'est peuplé de géants, les Anakim, on avait expliqué la dernière fois, c'était la race des géants de l'époque. Et Caleb, qui a été conquérant 45 ans avant, donc quand on avait envoyé les espions, Caleb faisait partie des gens qui sont revenus pour dire « Nous allons prendre la terre promise, cela est possible, malgré le fait que ces gens-là sont des géants, ils ont des armes, ils ont tout ce qui fait peur, nous allons gagner. » Alors que les 10, donc il y avait 12, 10 n'étaient pas d'accord, 10 avaient peur et avaient découragé tout le peuple. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont dit « Pas question, nous sommes plus forts parce que Dieu est avec nous. » Et Moïse avait promis des choses à Caleb, et Caleb réclame ça et dit « Je veux ça, et je crois que Dieu sera encore avec moi, je suis encore fort, il va se servir de moi pour vaincre les Anakim et récupérer le territoire. » C'est ce qu'il a fait, et il est écrit « Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. » Voilà, nous continuons, chapitre 15. Oui. Oui, oui.
Je voulais revenir sur le fait que la Bible dit que Caleb, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mais tu disais qu'il n'y a pas eu de successeur pour Josué. Pourquoi Caleb n'a pas pu succéder à Josué?
Oui, mais suivre la voie de l'Éternel, donc il a été correct dans les missions qu'on lui a confiées. Mais est-ce qu'il s'est intéressé à suivre la même ligne que Josué? Pas forcément. Donc on peut être correct dans ce qu'on te donne comme mission. Mais l'apôtre Paul le dit, celui qui désire la tâche d'évêque désire une tâche belle. L'appel de Dieu, nous devons aussi le désirer. Il ne suffit pas juste d'être correct dans les choses de Dieu. On doit aussi désirer aller plus loin dans la responsabilité avec le Seigneur. Peut-être qu'il n'a pas désiré. Il a été correct. Donc il y a plein de gens dans les églises qui sont corrects, mais qui ne prennent pas forcément l'appel de Dieu, qui restent corrects dans ce qu'on peut leur donner comme tâche, mais qui ne répondent pas à l'appel de Dieu pour leur vie, vraiment, de se sacrifier, de vivre pour Dieu totalement. Donc c'est un exemple. Donc puisqu'on voit avec Josué que c'est lui qui s'intéressait à Moïse. Josué s'intéressait à Moïse quand Moïse allait quelque part, il était là. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, il entrait. Quand Moïse en sortait, lui, il restait. Donc, il avait une communion personnelle, un appel qu'il désirait avec Dieu. Et c'est ainsi que, facilement, il a remplacé Moïse, alors que Caleb, on ne voit pas forcément qu'il suive Moïse partout. Mais à chaque fois qu'on lui a donné une mission, il s'est acquitté avec vérité et droiture, donc sans faillir. Voilà. Mais est-ce qu'il a désiré vraiment cet appel? Pas forcément. Donc c'est l'appel de Dieu. Dieu, il y a des moments, c'est comme s'il s'impose, mais en général, il ne s'impose pas. C'est lui désire, nous aussi on doit désirer pour qu'il y ait vraiment concrétisation de l'appel. Chapitre 15.
Josué chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Tsin, au midi et à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue de mer qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tsin et montait au midi de Kadès-Barnéa. Elle passait de là par Hetzron, montait vers Adar et tournait à Karkaa. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth Ogla, passait au nord de Beth Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Debir, à quelque distance de la vallée d'Akor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumin, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En Shemesh et se prolongeait jusqu'à En Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Himon, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala, qui est Kirjat-Jéharim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Seir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jéraïm, à Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille.
Voilà, c'est quand même une grande précision que nous voyons là. Et les gens qui connaissent un peu le Coran savent que ça n'a rien à voir avec la Bible. Quoi. Le Coran, c'est décousu. On va dire un sujet là, et puis, par exemple, l'histoire de Noé dans le Coran, c'est dans 30 parties différentes. Donc, un peu ici, un peu dans quelques chapitres plus tard. Donc, c'est vraiment décousu. La force de la Bible, c'est qu'il y a quelque chose, c'est suivi. Je crois que je l'avais dit le mardi passé, je le redis encore, c'est suivi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se répartir les territoires, on t'explique d'où ça allait, vers où. Donc, si on dessine, parce que là, on n'a pas les moyens pour mettre la carte, on va voir vraiment... En suivant ces explications, ça dessine les choses et chacun a une partie claire et nette. Donc c'est suivi, c'est pas dans le désordre. L'histoire, ils viennent de vaincre les rois, maintenant ils se partagent le territoire. La logique est suivie. Et dans la même partie, ce qu'on est en train de lire là, vous n'allez pas voir ça avec des bribes à gauche, à droite, dans le désordre. Non, c'est dans cette partie, c'est expliqué, c'est suivi, c'est clair, c'est historique. Voilà, c'est pas un roman. On raconte quelque chose qui se passait, comment ils se sont partagés les territoires. Et les gens qui écrivaient pouvaient être remis en question par d'autres s'ils se trompaient. Donc là, c'est ça qui fait la force de la parole de Dieu. Il y a une partie historique qui est très forte, qui rassure. Voilà. Et on continue, toujours au verset 12.
Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jephunné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est à Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir. Debir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kabtseel, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatsor, Itnan, Zif, Telem, Béalot, Hatsor Adata, Kirijot Etzron qui est Hatsor, Amam, Shema, Molada, Hatsar Gada, Eshmon, Bet Palet, Hatsar Shual, Bersheba, Bis Jota, Jotja, Baala, Ijim, Hatsem, Eltolad, Kézil, Orma, Tiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsoréa, Ashna, Zanoak, Enganim, Tapouach, Enam, Jarmout, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaïm, Gedera et Gederotaïm, 14 villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Midgalgad, Dilean, Mitzpé, Jogteel, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lashmas, Kitlish, Gederot, Bet Dagon, Naama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Eter, Assan, Jip, Tash, Akna, Netzib, Keila, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages, depuis Écron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana qui est Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Douma, Echéan, Janoum, Bet Tapouach, Afeka, Umta, Kirjat Arba, qui est Hébron et Tior, 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Zif, Juta, Jizréel, Jogdeam, Zanoach, Kaïm, Gibea et Timna, 10 villes et leurs villages. Aloul, Betsour, Gedor, Maharat, Bet Anot et El Tekon, 6 villes et leurs villages. Kirjat Baal, qui est Kirjat Jéraïm et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, Ir Amelak et Engedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.
Voilà, donc tout ce qui appartient à Juda. Et il y a toujours un détail très important. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc on nous montre que la victoire, pour qu'elle soit totale, ça dépendait aussi des humains. Donc Dieu te donne la victoire, mais c'est à toi de la vouloir totale. C'est ce qui explique que certains chrétiens restent à un certain niveau spirituel et d'autres vont plus loin. Ce n'est pas parce que Dieu te fait grâce du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, que nous allons tous avoir la même vie. C'est maintenant, il y a le désir personnel d'aller plus loin qui compte. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie gratuitement. Donc les victoires sont là, on te dit, tu peux gagner. Mais il y en a, dès qu'ils ont déjà pris un certain territoire, une certaine aisance, ils s'arrêtent là et cohabitent encore avec certaines choses. Et on comprend pourquoi régulièrement les enfants d'Israël sont retombés dans le péché. Parce qu'il y avait toujours ce peuple-là à côté. Il n'y avait pas eu une victoire totale, totale. Dans certains endroits, oui, comme à Jéricho, mais dans d'autres, non, comme là, on dit, il y avait encore les Jébusiens. Et qui va vaincre les Jébusiens? Ça va être David. David, quand il va prendre le pouvoir, il va y avoir guerre, il va vaincre les Jébusiens. Il va faire de Jérusalem sa capitale. Mais là, ce n'était pas encore le cas. Donc, c'est parce que chacun doit choisir. On te donne la ville, c'est à toi de conquérir tout. Si tu te limites là où après tu te sens à l'aise, c'est ton choix. Voilà, on ne va pas dire, mais pourquoi Dieu a laissé? Non, on a fait le choix de ne pas aller plus loin. C'est ce qui explique la disparité de vie chrétienne, la disparité de la manifestation de Dieu de chacun d'entre nous, où parfois on a reçu les mêmes enseignements, on a reçu le même Saint-Esprit, mais on ne produit pas les mêmes fruits, parce que ce n'est pas tout le monde qui va laisser Dieu agir autant qu'il veut, ou qui va vouloir aller loin. Comme c'est écrit, maudit quiconque retire son épée du carnage. Il y a des gens qui retirent l'épée du carnage parce qu'ils estiment qu'ils ont conquis suffisamment de territoire pour être à l'aise. Ce n'est pas bon parce qu'il y aura toujours un retour de l'envahisseur. Donc, allons toujours jusqu'au bout avec le Seigneur. Oui.
Oui, pasteur. Est-ce qu'on peut freiner l'œuvre du Seigneur dans la mesure où nous fonctionnons en groupe? Si certains ont soif plus que d'autres, est-ce que le fait que certains ont moins soif d'aller plus loin avec le Seigneur, ça peut être un obstacle pour un projet de Dieu?
Oui, ça peut être un obstacle pour le projet, mais pas définitif, pas obstacle définitif. C'est-à-dire que les gens qui vivent cette époque-là ne vont pas vivre la totalité de la bénédiction divine. Mais le projet de Dieu se maintiendra, Dieu utilisera quelqu'un d'autre dans l'avenir pour atteindre ses objectifs. Tel fut le cas de Jébus, Jérusalem. Quand David, lui, il est venu, David a dit, moi, je vais récupérer ça. Il a fait une stratégie, là, quand on va arriver. Donc, il a récupéré parce que lui, il allait jusqu'au bout de ce que Dieu avait promis. Voilà, donc ça s'est arrêté à nos bien-aimés, là, qu'on lit. Mais quand David vient, il atteint le projet, l'objectif du Seigneur.
Donc, on peut comprendre aussi que finalement, toujours dans la vie de groupe, ceux qui ont soif du Seigneur verront la gloire de Dieu d'une façon ou d'une autre, même si d'autres semblent freiner le travail qui se fait.
Ceux qui ont soif, Dieu va les utiliser de leur vivant. On a vu avec Siméon, de son vivant, il a vu le Messie. Parce qu'il tenait à voir le Messie, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans l'avoir vu. Alors combien de gens de l'âge de Siméon n'ont pas vu Jésus? Parce qu'il avait un âge très avancé, mais Dieu l'a fait voir le Messie. Les autres n'attendaient plus trop. Et Dieu ne leur a pas fait voir. Donc je crois que quand on tient à la vision divine, on va la vivre. Mais d'une manière collective, ça ne sera pas toujours le cas, mais personnellement, on va vivre cela. On ne mourra pas sans vivre ça.
Encore une question, pasteur. Est-ce que le fait de voir la gloire de Dieu lorsqu'on a soif du Seigneur dit forcément que nous allons la voir de façon terrestre? Je fais référence à Hébreux 11 où certains n'ont pas vu physiquement.
Mais si on n'en voit pas d'une manière terrestre physiquement, Dieu nous montrera ça en vision, c'est-à-dire de sorte qu'on mourra avec une sensation d'avoir réalisé la mission. Parce que Dieu nous l'a montré, que c'est bien, tu peux aller maintenant. Il ne peut pas nous laisser comme ça, il a promis des choses, on va les vivre. Si on ne les vit pas physiquement, il nous le montrera avant. C'est ce que Paul dit dans Hébreux 11, qu'Abraham a vu ça en esprit, il a vu tout ça. Et il s'est calmé, donc il est mort tranquillement. Donc quiconque s'attend au Seigneur ne mourra pas sans avoir expérimenté sa gloire. Alors, à cause des détails, des lieux, ce n'est pas toujours facile à lire, puisqu'on n'a pas de carte non plus en face de nous. Nous allons au chapitre 16, directement au verset 10.
Josué, chapitre 16, verset 10. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut.
Voilà. Donc, là, il s'agit de territoires donnés à Éphraïm et à Manassé. Une fois de plus, on nous dit, ils n'ont pas tout pris. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Alors, on ne sait pas pourquoi ils ne prennent pas tout. Est-ce qu'ils ont déjà suffisamment pris et ils ne veulent pas encore se dépenser dans une guerre? Est-ce qu'ils ont pris des femmes? Peut-être, tout est possible, mais ils ont fait des amitiés avec certaines personnes. et ils ne veulent pas se battre. Donc tout ça est possible. Donc attention, certains ont été freinés par des mariages. Tu fais un mauvais mariage, ça te freine par rapport à l'appel de Dieu. Parce que dans ce mariage-là, il y a des alliances nouvelles qui se font. Donc ça entraîne des choses. Et donc on ne sait pas trop pourquoi ils prennent pas tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils ont peut-être fait des alliances, des amitiés. Et du coup, la force de guerre diminue. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas tout pris. Oui, oui.
Est-ce que c'est pas lié à Josué 9, la ruse avec les Gabonites?
Non, les Gabonites, eux, ils ont réglé leurs choses. Ils ont réussi leur coup, en tout cas. Mais ça, c'est les Gabaonites. Mais là, il y a plusieurs familles. Ce n'est pas seulement les Gabaonites. Là, c'est d'autres gens. Les Gabaonites, leur cas, c'est à part. Ça a été avec Josué lui-même. Mais là, c'est avec d'autres tribus. Voilà. Et ça revient. Ce ne sont pas des détails inutiles parce qu'on voit que ce détail est donné au chapitre 15. Ça l'est donné encore au chapitre 16. C'est Dieu qui nous prévient. Attention. Soit avec moi, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux louper quelque chose par des alliances, par des amitiés, par des comportements où on est encore attaché à la chair, à ses enfants ou à ses parents. Et tu ne veux pas te détacher. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Quiconque veut me suivre doit être capable de renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants. » Parce que sinon... ça peut toujours te rattraper et tu n'entres pas dans l'appel de Dieu. Donc, à un moment donné, ça te rattrapera. Et là, on le voit, ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils furent assujettis à une tribu. On essaie de se consoler par le tribut qu'on fait payer, mais ce n'était pas ça la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'est qu'il fallait éliminer tous ces gens-là et occuper seul le territoire. Donc soyons vigilants, bien-aimés, soyons à 100% avec le Seigneur, ne faisons pas ce genre de marchandage personnel, d'arrangement, parce qu'on ne veut pas aller plus loin dans la vérité. On commence à dire, oui, mais je ne veux pas tout le temps gêner les gens, mais oui, mais ta vérité, c'est ta vérité. Admettons qu'on est quelque part où les gens sont des racistes, bon, on va les gêner tous les jours, tu ne vas pas aller râper ta peau? Parce que tu ne veux pas gêner les gens. Donc tu resteras toujours, admettons, tu es noir, tu resteras toujours noir, tu les gêneras chaque jour. Mais tu ne vas pas dire, bon, je vais aller dans ma salle de bain, je prends ce qu'on fait là pour le plucheur de carottes, là, je vais essayer de râper. Non, c'est comme ça, la vérité, ça gênera toujours. Acceptons que ça nous crée des problèmes, puisque le Seigneur a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Nous continuons, chapitre 17, maintenant... c'est le territoire, on donne d'autres territoires à d'autres personnes, Makir, premier-né de Manassé, ainsi de suite, Manassé, les fils de Manassé. Donc ça, c'est le territoire de Manassé. Nous lisons verset 12.
Josué 17, verset 12. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point.
Voilà, Dieu le précise encore, frère. On vient de lire ça, exactement. On voit bien que Dieu est mécontent. Il les assujettait à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Pourquoi on précise toujours ça? Parce qu'il y a un problème. Dieu dit, il faut aller jusqu'au bout de la vérité. On ne peut pas, puisqu'on est marié, je ne veux pas choquer mon mari. Je ne veux pas ceci. Mais non, la vérité, c'est la vérité. On doit aller jusqu'au bout. Respecter la parole de Dieu jusqu'au bout. Verset 13. Non, verset 14.
Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisréel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces.
Voilà. Donc, les gens viennent se plaindre, mais Josué dit, mais vous n'avez qu'à les conquérir au lieu de vous plaindre. Allez-y, puisque Dieu est avec vous. Allez prendre le territoire. Donc, on retrouve des gens qui sont assis chez eux, qui se plaignent. Je n'ai pas ceci. L'Église manque de cela. Mais peut-être c'est toi qui dois travailler pour cela. Donc, le Seigneur veut qu'on soit responsable. Oui.
Oui, je voulais une précision. Le fait qu'il demande un tribut, ça veut dire que malgré tout, il domine le territoire.
Il domine sur ces gens-là, oui.
Oui, mais le fait qu'il domine, enfin, je ne comprends pas la différence entre conquérir et le fait qu'il domine, puisqu'il domine.
Ah non, il fallait les éliminer. C'est ce que Dieu avait dit, vous les chassez. Il n'avait pas dit de prendre un tribut. De prendre un tribut que pour les villes lointaines qui ne concernent pas les territoires qu'il leur donne. Pour les territoires qu'il leur donne, il faut chasser les gens. Il faut que vous soyez seul, son peuple, pas d'autres, avec d'autres personnes. Oui.
Parce que là, c'est les tribus à côté, c'est ça ? Les proches.
Oui, dans le territoire qu'ils ont, il y a ces gens-là. Mais qui payent un tribut, qui payent un impôt, mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Et on voit par la suite pourquoi Israël est tout le temps retombé dans le péché à cause de cette contamination. Et on voit que tous les passages qu'on lit, il y a un bémol qu'on nous fait en nous disant ça. Ben tiens, ils n'ont pas chassé ces gens-là. Ben tiens, ils n'ont pas chassé. Ils n'ont pas tout conquis. C'est dit, ce bémol va continuer au chapitre 18. Josué va aussi le dire. Et là, on voit, pareil, les gens de Joseph, ils viennent. Ah, mais nous, on a un petit territoire. Josué dit, mais il y a la montagne, il y a la forêt. Allez, comment vous voulez qu'on vous donne tout comme ça? Donc, allez conquérir. Caleb, lui, il a demandé, il savait que c'était occupé. Il dit, donne-moi, j'ai la force, je peux aller conquérir. On voit la différence d'attitude. Ceux-là, ils viennent, mais nous sommes un peuple béni. Dieu nous a toujours bénis. Toi, tu nous donnes un petit lot. Josué dit, non, mais attendez. Donc, vous voulez toujours rester là qu'on vous bénisse. Et vous, quand est-ce que vous allez vous donner au Seigneur, quoi? C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle aussi à nous engager. Nous voyons beaucoup de gens dans les églises attendre un réveil. Ils attendent qu'il y ait une grande puissance qui va descendre du ciel comme le jour de Pentecôte. Après, les choses vont commencer à se passer. Et ils ne font rien, ils sont assis dans la chambre haute. Ah non, on doit prier, mais on doit agir avec les moyens du bord aussi. Va avec la force que tu as. Le Seigneur a dit à Gédéon, on prie, d'accord, on est dans la chambre haute. En même temps, on descend de temps à autre pour aller faire des escarmouches. Luttes, faire des sorties de conquêtes, on doit le faire. Donc, même si ça n'apporte pas beaucoup de choses, mais nous sommes un peuple de guerre, nous devons apprendre à faire la guerre, pas seulement rester en train de prier, faire des stratégies. Chapitre 18.
Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts, dans un livre. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion.
Voilà. Donc Josué réunit tout le monde. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour conquérir ? On voit bien que les gens étaient tombés dans une sorte de suffisance, de tranquillité relative. Ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Et c'est ça le problème qu'on retrouve aujourd'hui dans le corps du Christ. Les gens se contentent de ce qu'ils ont. Une belle salle. Allez, c'est bon. On a atteint notre objectif. Oh, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas demandé de conquérir une salle. Une salle, ça nous aide. Un lieu, ça nous aide à faire des choses, à prier, à faire des enseignements de base, à chasser parfois les esprits des gens, à louer Dieu, à faire des choses. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est qu'un moyen. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans ce contentement-là, alors que les païens augmentent en grand nombre. Parmi nos gouvernants, il n'y a plus de gens qui se convertissent. Alors, Dieu dit, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi ? Un chrétien ne peut pas être là à rester assis alors que le monde est en train de se détruire. Non, le chrétien doit être agité par ça, comme Gédéon, on lui dit, on est là toujours à se gosser en disant, nous avons vécu un bon culte, j'ai eu telle vision, mais Gédéon n'a pas été comme ça. Gédéon a dit, d'accord, monsieur l'ange, c'est extraordinaire que tu m'appelles vaillant héros, mais mon peuple souffre, il faut du concret. L'humanité souffre. Dieu aime l'humanité, donc on ne peut pas être là et être bon. Moi, je suis dans une église où il y a la vérité. Non ! La vérité, pourquoi ? La vérité, c'est pour répondre aux soucis du Seigneur, qui est que tous les humains soient sauvés. Donc, je dois m'engager, je dois laisser ma vie entre les mains du Seigneur pour que cela s'accomplisse. Sinon, ce n'est plus la vérité. Sinon, c'est de la religion. Donc, on reste enfermé dans un couvent, comme certaines religions le font, dans un monastère, comme les bouddhistes, les moines catholiques, vous êtes là à vous purifier dans la vérité alors que le monde est en train de souffrir. C'est pourquoi les moines même, ils ont fini par faire fabriquer de la bière. Donc à force de rester là, de chercher une certaine vérité, ils ont fini par trouver la vérité dans la bière. Ils font des bonnes bières, il paraît, les moines catholiques. Et voilà, la vérité, c'est conquérir aussi. C'est pas seulement ne pas voler, ne pas mentir, c'est conquérir. Sauver toute l'humanité, c'est ça aussi la vérité. Aller faire de toutes les nations des disciples, se consacrer à cela, se mettre à part pour cela, se disposer, être disponible entre les mains de Dieu. Josué dit, mais qu'est-ce que vous attendez ? On vous a donné les terres, allez conquérir. Et c'est Josué encore qui prend l'initiative, qui dit, bon, on va choisir 3 personnes, ils vont parcourir le pays et ils vont dessiner une carte et à des territoires et on jettera le sort devant le Seigneur. Comme ça, chaque tribu va prendre son territoire et va aller le conquérir. On va encore motiver les gens à aller. Voilà, Josué motive encore les gens alors que l'ordre avait été, le partage avait été déjà fait, l'ordre avait été déjà donné, mais il est obligé d'utiliser encore une autre stratégie pour motiver les gens à aller. Oui.
On voit dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, tous les chrétiens ne sont pas forcément engagés aller plus loin avec le Seigneur, dans le sens du travail. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, ce sont des bons chrétiens qui viennent suivre les réunions, mais dans le combat ou dans répondre tout simplement à l'ordre d'aller et de faire de toute nation des disciples, il y en a peu. Et on voit d'autres assemblées aussi où le système est fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de disciples, voilà, pour que ceux qui dirigent restent à la tête de ceux qui dirigent. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un danger pour ces chrétiens-là qui sont, je dirais, des bons chrétiens honnêtes, mais qui ne sont pas engagés dans la guerre ?
Oui, il y a un danger parce que dans l'onction que Dieu donne, il y a aussi l'onction pour vaincre les ennemis de notre parcours. Dieu ne nous donne pas l'onction en vain, il nous donne l'onction pour servir. Maintenant, quand il t'a donné, quand tu es prédisposé à avoir une onction pour un parcours et que toi-même, tu rejettes cette onction, mais le parcours est quand même là. C'est-à-dire que, un exemple, tu dois passer le bac, mais il y a des cours à suivre pour passer le bac. Mais toi, tu rejettes les cours. Mais le jour du bac, tu seras en déficit. Donc, ce qui attend ces chrétiens-là, c'est que le jour où les vraies difficultés viennent, je crois qu'on a vu ça dimanche passé, Dieu nous fait vivre certaines bénédictions spirituelles, certaines révélations, certaines, quand on voit un ange, quand on vit certaines gloires. C'est parce qu'il sait aussi qu'on en aura besoin pour faire face aux difficultés à venir, aux combats à venir. On en aura besoin et il nous fait vivre comme il a vécu, il a fait vivre la transfiguration à Pierre et aux autres. C'est parce qu'il savait que c'est eux les fondations de l'Église. Donc il fallait qu'ils soient bien armés pour réfuter les contradicteurs, tenir. Parce qu'il va y avoir beaucoup de combats, beaucoup de contradicteurs, même parmi les chrétiens. Et donc, maintenant, quand nous, on délaisse ça face à tous les combats qui vont venir, on ne tiendra pas. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vont passer leur vie à ne produire pas vraiment de grands fruits parce qu'ils n'ont pas accepté l'onction divine telle que Dieu l'avait prévue. Donc il y a un danger à ne pas entrer dans ça. Il y a un grand danger.
Donc devant cette réalité-là, donc, quel est le rôle d'un responsable spirituel, que ce soit dans l'Église ou que ce soit même le père de famille?
C'est de refuser l'esprit de consommation. Un responsable spirituel doit refuser que les gens qui l'entourent soient dans un esprit de consommation juste pour prendre le talent qu'il y a dans le responsable. Il faut que ce soit des disciples, des gens qui entrent dans leur responsabilité. C'est ce que Josué a tenté. Dieu même a dit à Josué, tu es vieux, arrête d'aider maintenant tout le monde. Toi, tu t'arrêtes là, tu les laisses eux-mêmes. Et Caleb a dit, moi-même, je vais conquérir mon territoire. Mais on le voit encore là, malgré Josué a tenté, mais ces gens-là, on s'est arrêté. Cette tribu n'avait pas toujours de territoire. Donc il fallait encore que Josué revienne stimuler, mais allez-y. Bon, il n'est pas parti lui-même, au moins il les a encore stimulés, il leur a rappelé. Donc il a joué son rôle de dire, c'est à vous de récupérer, qu'est-ce que vous attendez? Moi je ne peux plus rien faire, Dieu m'a demandé de stopper, je suis trop vieux. Maintenant c'est à vous. Je crois que l'ordre de Dieu, ce n'est pas seulement lié à l'âge de Josué. En réalité, c'est pour stimuler les autres à entrer dans leurs responsabilités. Je crois qu'un responsable ne doit pas se contenter de voir qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Il faut que ce soit des disciples. Et d'ailleurs, Dieu va envoyer des messages. Il va permettre des situations qui vont diminuer le nombre de consommateurs. Donc, on l'a vu dans Jean 6, le Seigneur Jésus a dit, il faut me manger. Tous les consommateurs ont fui. Il dit qu'on doit le manger, mais nous, on n'est pas cannibales. Allez! Chacun prend sa route. Donc, en ce moment-là, les consommateurs, ils oublient tout ce qu'ils ont consommé pendant des années avec Jésus, tous les miracles qu'ils ont consommés, toutes les belles prédications qu'ils ont consommées, juste pour une phrase qui était un peu compliquée, ils ont fui. Mais qui sont restés? Les vrais. Jésus dit, mais pourquoi vous restez? C'est parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Ah! Eux, ils avaient saisi qui était Jésus, quelles étaient les attentes du Seigneur. Et il reste. Donc Dieu va permettre, dans Actes des Apôtres, il a permis la persécution. Et dans la persécution, chacun parfois cherchera à sortir du bateau qui coule. Hein. Et les vrais vont rester. Ils vont préférer couler avec le bateau parce que dans le bateau, il y a Dieu lui-même. Donc c'est cela. Dieu va permettre des situations pour purifier. Mais le responsable doit être vigilant dans la prière et dans sa façon de faire à ne pas favoriser la consommation, mais le discipolat. Voilà, c'est ça quoi. Oui.
Oui, pasteur, je voudrais revenir sur le fait de tirer au sort, parce que si j'ai bien compris, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Josué a fait.
Passé, oui.
Je voulais savoir si aujourd'hui on peut raisonner comme ça en tant que chrétien, c'est-à-dire prier Dieu et ensuite, lorsqu'on a plusieurs options, tirer au sort. Est-ce
oui,
que
si
Dieu peut permettre cela?
Dieu a fait ça, oui. Puisque dans Actes des Apôtres aussi c'est fait, pour
oui.
Choisir le
Matthias.
Voilà, si le Saint-Esprit t'y conduit.
D'accord.
Voilà. Mais ce n'est pas une méthode. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui conduit à faire ça. Voilà, nous continuons.
Verset 11. Josué 18, verset 11. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur est échue par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph.
Voilà, et puis on nous décrit leur part au chapitre 19. On décrit la part de Siméon et de Zabulon et d'Issacar, Aser, Nephtali, Dan, et puis on finit avec la part accordée à Josué au verset 49.
Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays D'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Noun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérakh, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.
Amen. Bon, c'est beau de voir qu'après qu'on ait partagé à tout le monde, Josué maintenant, c'est son tour. Alors qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui ont d'abord des Mercedes, qui ont de grands châteaux aux États-Unis, des jets privés. Et parfois, on va voir l'Église a des difficultés à payer le loyer, a des choses. Donc là, il y a partage pour tout le monde, chacun a son territoire. Maintenant, Josué, tout le peuple lui accorde ce que lui désirait. Donc on voit que ce n'est pas une prise dictatoriale du territoire par Josué, mais c'est un accord avec le peuple qui reçoit cela. Et voilà. Maintenant, certaines personnes me diront, mais oui, mais ces pasteurs-là, certains qui ont des jets privés et des châteaux, ainsi de suite, mais leur église aussi sont bien nantis, sont bien lotis. C'est grand, c'est beau, elles sont pas, les bâtiments ne sont pas en reste. Oui, mais c'est pas ça la vision divine. La vision divine, ce n'est pas que le serviteur se taille la part du lion, même s'il donne aux autres. La vision, c'est d'abord être serviteur des autres. Donc faire en sorte que utiliser les moyens que Dieu donne pour que le peuple de Dieu d'abord soit béni et le peuple de Dieu pensera à lui. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là construisent un système pour avoir la part du lion. Donc ils écrivent des livres, ils font des cassettes, ils font des DVD avec leur nom. Et d'ailleurs, les églises sont à leur nom. Un tel Quefle Dollar Ministries. Rares sont les assemblées qui ne sont plus qui n'ont pas de nom de pasteur. Donc, en quelque sorte, c'est eux qui prennent les choses. C'est pas la même chose. Là, même si on peut dire que leurs bâtiments sont grands, ainsi de suite, mais quand on regarde bien, ils se sont taillés quand même la part du lion. Ce qu'on peut dire tout simplement, peut-être qu'ils sont un peu différents de certains pasteurs véreux qu'on voit qui vraiment laisse l'assemblée, les bâtiments de l'assemblée dans le démunissement et ils sont très riches, mais ils restent quand même dans le camp de ceux qui se taillent la part du lion en laissant au peuple une part petite. Voilà, ce n'est pas bon. Josué nous montre un exemple différent. Donc nous allons clôturer là. Non, ou bien on lit quand même le ville-refuge, chapitre 20.
Josué chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention? Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retourna et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier. et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée.
Voilà, donc j'aime la complétitude de la Bible. Donc ce qui avait été dit dans les textes précédents, dans Nombre, Deutéronome, c'est redit. Donc quand le moment est venu d'appliquer, ils appliquent ça. Ils créent des villes, refuges pour quelqu'un qui aurait tué involontairement. Ainsi, il pourrait échapper aux vengeurs de sang. Et ils pratiquent ce qui avait été dit. La Bible est construite, vraiment construite d'une manière suivie. C'est la grande leçon qu'on peut retirer de tout ce qu'on lit là, c'est des détails à profusion, parfois difficiles à visualiser, mais ça nous rassure sur ce qu'est la Bible. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une invention, c'est vraiment une construction historique, spirituelle, que le Seigneur a permise pour que nous, les gens de notre époque, nous soyons bâtis sur le roc, sur un socle éternel. Que Dieu soit béni. Donc nous allons prier afin que le Seigneur nous aide vraiment à lire la Bible, à la prendre au sérieux. Nous allons prier afin que nous ne soyons pas des gens qui nous arrêtons quelque part en refusant de conquérir, en refusant d'aller loin. Le Seigneur nous demande de sauver toute l'humanité, à l'effet de toutes les nations des disciples. Nous devons dire au Seigneur, nous sommes prêts à cela, montre-nous ce qu'il y a à faire, nous le ferons. Voilà, que chacun parle à son Dieu au nom de Jésus. Seigneur, montre-nous ce qu'il y a à faire, nous le ferons, parce que nous refusons de jouer aux figurants sur la terre avec notre salut en poche et laissant toute cette humanité dans le désarroi, dans l'ignorance de qui tu es, Seigneur. Nous ne voulons pas retirer l'épée du carnage. Nous voulons aller jusqu'au bout de la mission, jusqu'au bout de ce que tu as prévu pour nous. Ô Seigneur, aide-nous, nous t'en prions, dans le nom de Jésus-Christ, à conquérir les territoires, à ne pas nous contenter de ce que nous avons, mais aller jusqu'au bout de l'appel, aller jusqu'au bout de la sainteté, jusqu'au bout de la spiritualité, que nous ne puissions pas nous contenter, nous arrêter à un niveau, que vraiment notre vie soit un holocauste, que toutes les parties de notre vie soient utilisées pour ta gloire et pour le salut de l'humanité. Au nom de Jésus, nous refusons de te laisser prendre une partie et pas tout. Prends tout, Seigneur.